Donc là, on va vous expliquer ce qu'est un auxiliaire ou une auxiliaire spécialisée vétérinaire, comment va se dérouler la formation, quelles sont les conditions d'entrée, donc les prérequis de manière générale, la présentation du contenu, donc c'est-à-dire les programmes de formation, et on terminera par un question-réponse si vous avez des questions. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que auxiliaire spécialisé vétérinaire, la plupart du temps, on se dit ben, « j'aime les animaux, j'ai envie de les soigner, des coucouner », ça ne s'arrête pas à ça. Un auxiliaire spécialisé vétérinaire, c'est un métier polyvalent, c'est un métier qu'on appelle 10 en 1. Vous allez être, alors on va détailler après chaque mission, laborantin, conseiller, anesthésiste, comptable, psychologue, vous allez être beaucoup de choses, aide en chirurgie, pharmacien, infirmier aide-soignant, secrétaire médical et, ce que vous détestez le plus, technicien de surface. Donc là, on va détailler, on a regroupé ces missions en 3 blocs de tâches. Donc on a regroupé les tâches qui concernent l'accueil et le secrétariat. Le secrétariat médical, forcément, vous êtes dans une clinique, il y a des clients. Donc il faut être capable de les accueillir physiquement, de les accueillir par téléphone, de prendre des rendez-vous et éventuellement de faire des relances auprès des clients. Vous avez un rôle de comptabilité, donc tenue de caisse. Il y a des clients, donc forcément, il y a des factures à payer. Donc, il faut être capable de tenir une caisse, de gérer des encaissements, de gérer la recette du jour et éventuellement, ce qu'on aime le moins, les relances en cas d'impayé. Un rôle de pharmacien, donc il y a des produits. Il faut être capable de les vendre et de conseiller sur ces produits, de connaître la législation de délivrance et la gestion des stocks. Un rôle de psychologue, auxiliaire spécialisé vétérinaire, ça ne s'arrête pas, comme je vous disais tout à l'heure, à du cocooning et du soin. Il y a aussi des parties un peu moins amusantes, entre guillemets, comme par exemple gérer une fin de vie. Donc il faut avoir un côté psychologue pour être capable d'accompagner, de comprendre la douleur d'une personne et de l'accompagner dans une fin de vie d'animal. Gérer les conflits, ça peut être du conflit entre un ASV et un client, ça peut être des conflits entre un client et un véto, des conflits parfois, c'est rare, mais entre clients. Les animaux ne s'entendent pas, donc les maîtres ne s'entendent pas non plus. Après, on a tout ce qui est savoir-être. Alors ça, pour moi, ici, au niveau de l'école, c'est très, très important, le savoir-être. C'est ce qu'on appelle le SBAM. Je ne sais pas si vous connaissez le SBAM. Ce sont les règles du savoir-être. S'il vous plaît, bonjour, au revoir, merci. C'est la base. Donc nous, ça, on va vous le demander en clinique, mais on va vous demander aussi ici au sein de l'école. Moi, ce que j'ai voulu mettre en place ici à Lens, c'est une petite école conviviale, familiale. Le mot le plus important pour moi, ça reste la bienveillance, d'accord? Mais forcément, il faut que tout le monde applique ces règles-là. Les étudiants, les intervenants et nous, au niveau de l'administration. OK? Donc il faut être capable de faire preuve d'empathie, comprendre la douleur d'une personne et être capable de l'accompagner dans cette douleur. Ensuite, vous avez un rôle de conseiller. Donc conseiller en nutrition, en antiparasitaire ou même dans tout ce qui est comportement animalier. Tout ce que je vous explique, pas de panique, vous allez l'apprendre à l'école, c'est l'objectif, bien évidemment. Ensuite, on a regroupé sur un deuxième bloc de tâches qui va s'appeler chirurgie et soins. Donc, vous aurez un rôle d'infirmier aide-soignant, donc préparer les soins des patients, faire de la contention, préparer le matériel, la stérilisation des instruments et éventuellement la gestion d'un animal contagieux. Aide en chirurgie. Alors, forcément, ça reste de l'aide. C'est le véto qui pratique la chirurgie et vous l'assistez en suivant ses recommandations. Donc, mise de gants stériles, respect de la bulle stérile, tout ça, ça va s'apprendre, préparation de la table et connaissance des instruments. Qui dit chirurgie dit anesthésie, heureusement pour l'animal. Donc, signe du réveil à détecter. Donc, vous, votre rôle d'ASV, c'est de détecter les signes de réveil de l'animal et éventuellement de détecter une anesthésie qui a été trop profonde. Il met trop de temps à se réveiller, c'est à vous aussi de le détecter. Vous gérez également le monitoring. Et vous devez être en mesure de comprendre tous les circuits anesthésiques. Ça, c'est important également. Laborantin, donc c'est tout ce qui est petit acte, entre guillemets, donc analyse de sang, analyse d'urine, analyse de sel, ou éventuellement la préparation à la phytothérapie. Et enfin, le dernier bloc de tâches, qui sont les tâches communes de soins, chirurgie, secrétariat, qui correspond à du technicien de surface, donc pour dire les mots, c'est le nettoyage, entretien des locaux, propreté des lieux, marche à suivre pour nettoyer la chirurgie, parce que même dans des règles de nettoyage, il y a un protocole à suivre, ça peut paraître étrange, mais il y a aussi un protocole bien strict à suivre. L'objectif, c'est d'éviter toute contamination. Vous allez être face à des animaux, vous allez soigner des animaux, donc forcément, il faut respecter ces règles d'hygiène. Et pareil, quand vous respectez au niveau des personnes que vous soignez, c'est la même chose. Qu'on soit sur une santé animale ou sur une santé humaine, on aura le même comportement et il faudra bien respecter tout ça pour éviter la contamination. Donc, par rapport à ce que je viens de vous expliquer sur le rôle d'une auxiliaire spécialisée vétérinaire, quelles seraient, selon vous, les qualités qu'on attend d'une auxiliaire spécialisée vétérinaire ?
D'être empathique.
Tout à fait. Le plus important sur ce métier-là, c'est le sourire et l'accueil. Parce que vous êtes dans une clinique. La première personne que les clients vont voir, c'est vous. Donc, si vous n'êtes pas souriante et accueillante, c'est comme dans un restaurant. On n'aura pas envie de venir y manger. D'accord ? Donc, c'est très important, le sourire et l'accueil. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire preuve de dynamisme. Parce que dans une clinique, il y a des journées qui vont être très calmes. Et à l'inverse, il y a des journées où on va avoir plein d'urgences qui vont nous tomber dessus. Et du coup, ben, il faut aller un peu dans tous les sens. Donc, le dynamisme, c'est une qualité qu'on va demander. Vous n'êtes pas seul dans la clinique. Donc, forcément, il faut être capable de travailler en équipe. Ça, c'est important également. La disponibilité. Vous avez un client en face de vous, il a des besoins, il a des questions, vous devez être disponible pour lui. Le sang-froid et la maîtrise de soi. On en parlait tout à l'heure, il y a des gestions de conflits parfois, et il faut savoir faire preuve de sang-froid. Donc tout ça, ça s'apprend forcément, et ça fait partie aussi des cours qu'on va vous enseigner ici à l'école. L'empathie. Donc vous voyez, vous aviez employé le bon terme. On a un client qui est en souffrance et il faut le comprendre et l'accompagner et faire preuve envers lui d'empathie. Ça, c'est important. Et la réactivité, c'est très important aussi parce que parfois, vous allez avoir plusieurs situations et il faut être capable de dire bah, laquelle est la plus urgente. Donc je vais là, je fais ça, il faut être réactif. On ne peut pas se permettre de réfléchir trop longtemps. Je vous donne un exemple. Une fois, j'ai une étudiante à qui je dis, et je donne toujours cet exemple-là parce que ça me fait rire, je lui dis, mais vous avez un animal qui arrive, il a eu un accident, donc il y a du sang partout, qu'est-ce que vous faites ? Et elle me répond, je nettoie le sang. Non. L'urgence, c'est l'animal. On soigne l'animal, même si les règles d'hygiène sont importantes, on soigne l'animal et après, on nettoie. D'accord ? Donc tout ça, c'est des choses qu'on vous apprend, ça doit être après des automatismes, donc tout ça, on va vous l'apprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ASV, ça va être le relais vers trois interlocuteurs différents. Le premier interlocuteur, ça sera les propriétaires, donc les clients de la clinique, que vous allez devoir rassurer, à qui vous allez devoir expliquer, donner des nouvelles si l'animal a été hospitalisé. Le bras droit du vétérinaire, donc vous aider sur des tâches multiples, hein, la chirurgie, les examens, la contention. Et celui que vous préférez en général, le relais auprès des animaux. Donc tout ce qui est cocooning, surveillance et soins. D'accord ? Donc c'est là que vous arrivez à voir que c'est un métier très polyvalent. Donc, cette formation d'auxiliaire spécialisé vétérinaire nécessite comme prérequis de posséder un niveau bac. D'accord ? Vous n'êtes pas obligé d'avoir le bac, mais il faut l'avoir passé et avoir obtenu le niveau bac. Ça, c'est un prérequis. La formation, on a fait le choix de ne la proposer qu'en initiale, donc en formation payante. On ne le fera pas en alternance. Je sais qu'il y a une école à Arras qui le propose en alternance. La difficulté de l'alternance, c'est de trouver une entreprise déjà, une clinique. Et deuxièmement, vous avez vu, je vous ai expliqué un peu le métier. Tout ça, vous ne le savez pas au départ. D'accord ? Donc vous arrivez dans une clinique et d'un seul coup, on pense que vous allez tout savoir. Mais non. Donc vous avez des maîtres d'apprentissage qui jouent le jeu et qui forcément vont jouer un rôle de maître d'apprentissage. Ils vont vous accompagner, ils vont vous former, ils vont vous aider, ils vont vous laisser le temps de comprendre. Et il y a des maîtres d'apprentissage qui pensent qu'en un mois, vous saurez tout faire. D'accord ? Donc c'est un peu compliqué le système de l'apprentissage. Je ne dis pas qu'on n'y viendra jamais, mais pour l'instant, on a opté plutôt sur de l'initial, donc une formation à temps plein avec des stages. D'accord ? Donc c'est une formation de 24 mois. Les conditions d'entrée, je vous l'ai dit, donc niveau bac, être âgé de 18 ans, parce que sinon, pendant les stages, vous ne pourrez pas faire de radiographie. Le process de recrutement de l'école est très simple. Vous faites ou pas, parce que ce n'est pas une obligation, une porte ouverte, comme c'est le cas aujourd'hui. Vous faites une réunion d'information, c'est ce que je suis en train de vous faire pour vous expliquer un peu la formation. À l'issue, ou à plus tard, hein, ce n'est pas une obligation de le faire tout de suite, vous faites un test de positionnement qui dure 10-15 minutes sur des questions de culture générale ou des questions un peu de logique. C'est plutôt ce type-là, donc rien de très compliqué au niveau du test, surtout si vous êtes en BTS. Et à l'issue du test, si vous êtes admissible, un entretien de motivation dans lequel je vais déterminer avec vous quelle est votre motivation pour exercer cette formation-là et potentiellement ce métier-là, et quel est votre projet professionnel. Et moi, mon objectif, ça sera d'analyser si c'est cohérent. D'accord ? Si vous êtes admissible à l'issue de l'entretien, vous me confirmerez ou pas, alors c'est pas tout de suite, hein, vous avez le temps d'y réfléchir également, vous me confirmerez votre souhait d'inscription au sein de l'école, et une fois que ce sera confirmé, là je vous enverrai un contrat, et quand le contrat sera signé, bah, votre place sera bloquée, en sachant qu'on sera sur une seule classe normalement, je ne sais pas si on pourrait en ouvrir une deuxième, c'est à analyser au vu des demandes que nous avons. Une seule classe de 25, donc c'est ce que je dis aux personnes. Je pense qu'avril, ça commencera à faire un peu tard et je pense qu'il y a de grandes chances qu'on soit complet au mois d'avril. D'accord ? Donc là, on est encore dans les temps, aucun problème, pas d'urgence. Mais on a eu quand même beaucoup de monde à la réunion d'aujourd'hui. J'ai déjà reçu 8 personnes en entretien sur celle de décembre, 2 qui sont déjà inscrits. Donc vous voyez, ça commence quand même à bien se lancer. Donc ne tardez pas trop, à mon avis, jusqu'au début avril, vous avez encore un peu de temps pour réfléchir. Subveto, c'est un certificateur qui a obtenu un titre RNCP. Je vous expliquerai après ce que c'est. Et ce certificateur autorise un certain nombre d'écoles à délivrer cette formation et ce titre. D'accord ? Nous avons 30 écoles, okay, réparties un peu partout en France. Présentation des matières. Donc, dans les matières, il faut savoir que de manière générale, vous avez des matières d'enseignement général. Donc les matières d'enseignement général, ça sera par exemple du français, de la comptabilité, de la bureautique, de l'anglais. Tout ça, c'est ce qu'on considère comme étant des matières d'enseignement général. Ensuite, vous aurez des matières un peu plus professionnelles, donc de l'éthologie, de la parasitologie, de la pharmacologie. Vous voyez, il y en a quand même pas mal. Ensuite, vous aurez des épreuves pratiques, donc des TP, travaux pratiques, qui se feront au laboratoire que nous sommes allés visiter tout à l'heure. Et ensuite, vous aurez certaines épreuves qui sont des jeux de rôle, comme par exemple les techniques de vente, parce que c'est important, il y a de la vente en clinique. Ça se fait sous forme de jeux de rôle. Donc ces cours-là, en général, on les fait en sous-groupe. Donc vous êtes 12 ou 13. On ne le fait pas en classe complète, parce que forcément, 12 ou 13 sur de la technique de vente ou sur du TP, ça devient très compliqué, si on est 25. D'accord ? Tous ces cours, et ça c'est très très important, sont délivrés par des professionnels, c'est-à-dire que ce sont soit des ASV, soit des VETO qui sont en poste et qui s'absentent pendant leur emploi pour venir délivrer la formation. Vous aurez l'occasion après de rencontrer Madame Boisté dans la salle d'à côté, qui est une vétérinaire qui vient délivrer des cours dans l'école. Ce qui change pour vous, c'est que vous avez en face de vous des professionnels, donc des personnes qui sont à même de vous donner des exemples de cas pratiques qu'elles vivent tous les jours ou qu'elles vivent depuis des années dans l'exercice de leur métier. Et du coup, forcément, non seulement ils sont passionnés, sinon ils ne feraient pas ce métier-là, et en plus, ils sont en mesure de rendre les cours un peu plus vivants et beaucoup plus parlants et beaucoup plus en rapport avec la réalité du métier. D'accord ? Donc ça, c'est important. On parle d'un titre RNCP. Dans un titre RNCP, à la différence d'un diplôme d'éducation nationale où en général on poursuit, par exemple on fait un BTS, on fait une licence ou un master, en général dans les titres RNCP, l'objectif c'est l'emploi. Donc vous faites vos 2 années. Alors vous allez le trouver dans le livret, si vous voulez je vous en laisse un. Vous allez donc directement à l'emploi, c'est l'objectif, ou pas. Parce qu'il faut savoir qu'on va proposer, d'ici que vous vous inscriviez et que vous finissiez vos 2 années, on va très certainement mettre en place dans l'école peut-être des spécialisations, par exemple une spécialisation équine à l'issue des 2 années d'ASV, ou alors une formation, c'est temps pour parler, on n'a pas encore bien déterminé, peut-être potentiellement un diplôme de bac plus 2 qui pourrait se faire en alternance à la fin des 2 années et qui aborderait plutôt les termes de management, toutes ces notions-là qui seraient un peu différentes du métier en lui-même d'auxiliaire spécialisé vétérinaire. Donc tout ça, c'est en pourparler, d'accord ? On n'est pas encore, ce n'est pas encore acté. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un titre RNCP, on veut aller à l'emploi. Et du coup, nous, on va vous parler de compétences. On ne va pas vous parler de matière. Pour nous, vous avez 4 blocs de compétences à valider pour obtenir votre diplôme. Ces quatre blocs, le premier bloc, ça sera de la gestion administrative courante d'un établissement. Le deuxième bloc, qui est un bloc très important, c'est tout ce qui est respect des normes d'hygiène et de sécurité. Le troisième bloc, c'est la relation client de la clinique vétérinaire sous l'autorité du vétérinaire, bien évidemment. Et le quatrième bloc, c'est l'assistance technique au vétérinaire. Ça, vous les retrouverez en détail dans le livret. Forcément, qui dit formation en initiale, dit également qu'il doit y avoir des stages. Il faut quand même qu'il y ait de la pratique. Okay ? Au niveau de la rentrée, en général, on fait une rentrée mi-septembre. L'année dernière, c'était le 8 septembre exactement. Et vous venez à l'école tous les jours, du lundi au vendredi. Et à partir de début novembre, vous faites un jour de stage par semaine. Alors pour l'instant, c'est acté le vendredi. On verra si on reste sur cette journée-là. Donc à partir de début novembre jusque fin mai, vous êtes en stage tous les vendredis. Ou le samedi, ce n'est pas acté, vous pouvez bloquer en fonction de la convenance du vétérinaire, d'accord ? Et ensuite, sur la période qui va de juin à août, juin, juillet, août, vous avez un stage long de 8 semaines à faire. Ok ? Sur la deuxième année, on reprend sur un démarrage de formation début septembre. À partir de début octobre, vous ferez un stage bi-hebdomadaire. Donc pour l'instant, c'est lundi, vendredi, on verra si ça ne bouge pas, jusque mi-février, jusqu'aux vacances de février. À partir des vacances de février, donc février, donc deuxième quinzaine, mars, avril, mai, vous avez à nouveau un stage long de 8 semaines à faire. Et ensuite, mai-juin, les épreuves finales de certification. Ce qui est important pour que vous puissiez obtenir votre titre, pour être éligible en tout cas au titre, c'est d'avoir 25 semaines de stage sur les deux années d'effectuer, ou 875 heures si on veut parler en heures. Ça, c'est une obligation. Le titre, pour l'obtenir, il faut valider les quatre blocs. Vous validez les quatre blocs, vous obtenez le titre. Si vous ne validez que certains blocs, par exemple un ou deux blocs validés, il faut savoir que chaque bloc de compétences validées est valable à vie. Vous n'avez plus à le repasser, d'accord ? S'il y a des blocs sur lesquels vous avez échoué, il y a des possibilités de rattrapage. Par contre, les rattrapages ne se font qu'une fois par an, en mai ou juin. Ça veut dire que si vous échouez à un bloc, vous êtes obligé d'attendre mai l'année suivante pour le repasser. D'accord ? Pendant cette année-là, vous n'êtes pas obligé de redoubler et de resuivre les cours. Vous pouvez le passer sous forme de candidat libre, entre guillemets, et vous le repassez en mai-juin l'année suivante. Ça ne vous empêche pas de travailler pendant cette année, puisque le titre d'ASV n'est pas une obligation pour exercer le métier. Donc vous pouvez travailler pendant un an et repasser en mai-juin le bloc que vous avez échoué. Ça marche ? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la validation de votre diplôme, il y a trois choses qui vont entrer en considération. Le contrôle continu, vous allez avoir des notes tout au long de l'année, vous allez avoir des examens blancs, comme c'est le cas actuellement au mois de janvier. Et toutes ces notes sont regroupées dans des bulletins semestriels et ces notes sont prises en compte dans la validation de votre diplôme. Ce qui est également pris en compte, c'est la partie stage, donc votre maître d'apprentissage remplira ce qu'on appelle un livret de compétences dans lequel il va vous dire est-ce que les compétences sont acquises, non acquises, en cours d'acquisition. Et ça aussi, ça entrera en considération dans l'obtention du diplôme. Et dernière chose, bien évidemment, les épreuves finales de certification qui sont soit des écrits, soit des épreuves orales. Comme vous le voyez, France Compétences, c'est l'organisme qui autorise à délivrer un titre RNCP. Et nous avons bien un titre RNCP 40580. J'insiste bien là-dessus parce que parfois j'entends des étudiants qui ont été dans d'autres écoles et qui me disent « Non, votre diplôme n'est pas reconnu ». Ça, ça vous prouve que ce diplôme est reconnu. Voilà, donc ces trois choses sont importantes. Donc le contrôle continu, les évaluations de stage et les épreuves finales. Et le titre RNCP qui est bien reconnu par l'État. On est sur une formation initiale, donc une formation payante. On fait des contrats à l'année, donc on est à 4 250 euros par an, donc 8 500 euros pour les 24 mois, pour les deux années. Ces frais de scolarité peuvent parfois être pris en charge par certains organismes extérieurs. Exemple, vous avez travaillé, vous avez cumulé du CPF, du compte personnel de formation. Vous pouvez l'utiliser pour financer une partie de votre scolarité. Vous êtes inscrite, vous êtes à la recherche d'un emploi et vous êtes inscrite en mission locale. Parfois, on peut demander à mobiliser des financements PLI via les missions locales. Vous êtes inscrite à France Travail parce que vous cherchez un emploi. France Travail peut cofinancer une partie. Bon, c'est en fonction des budgets. Et si aucun financement extérieur n'est possible, on sera sur de l'autofinancement. Et sur l'autofinancement, il faut savoir qu'on a mis en place une bourse privée de l'école sur barème en fonction de l'avis d'imposition. Et on calcule la bourse et on la déduit des frais de scolarité. Sur la somme restant due, on est très souple au niveau des paiements. Vous pouvez commencer à payer dès maintenant si vous le souhaitez et jusque fin août. Il faut que la première année soit soldée à la fin de la première année, fin août. J'ai des parents qui ont commencé à payer en janvier ou février parce que plus tôt vous payez, moins vous paierez forcément au niveau de la mensualité. Donc ça, c'est important. Donc voilà, on a une amplitude assez large au niveau des frais de scolarité. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions?
Quand on veut être assistant d'un vétérinaire, premièrement, est-ce qu'il faut aimer les animaux?
Oui, bien évidemment. Sinon, ça va poser un peu problème quand même.
Et est-ce que vous avez une relation particulière aux animaux? Est-ce qu'ils vous aiment bien? Est-ce qu'ils se sentent bien avec vous? Est-ce que c'est facile d'entrer, je ne vais pas dire en communication, mais presque avec eux?
Quand j'ai fait des stages en terminale et en première, j'étais assez à l'aise avec les animaux, donc c'était... Enfin, il y a certains animaux où on ne pouvait pas les approcher, bien évidemment, mais c'était assez facile d'être en contact avec eux.
Il y a des animaux qui vous effraient plus que d'autres, ou bien non? On parlait peut-être de chevaux tout à l'heure.
Non, du tout. Non, pas spécialement. Peut-être les nacs, plus, forcément.
Ça dépend
quel nac. Oui, c'est ça. Non, comme les serpents, voilà, c'est pas trop mon truc, ça. Non.
Donc, vous pouvez choisir un peu vers quoi vous orienter quand vous vous adressez à un vétérinaire. A priori, lui, il a sans doute une spécialité déjà.
Oui, il peut être spécialisé avec les nacs ou pas.
Là-dessus, je vais répondre si vous voulez bien. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, j'en ai pas parlé, mais au niveau des stages, en première année, on recommande la clinique vétérinaire pour la première année. Parce que dans une clinique, vous allez être en mesure de voir toutes les compétences qui sont demandées dans les blocs qu'on a vus ensemble. Par contre, sur la deuxième année, vous pouvez partir sur un autre établissement qu'une clinique vétérinaire. Par exemple, un centre hospitalier vétérinaire, un zoo. Il y en a beaucoup qui font leur stage dans un zoo. C'est assez intéressant aussi, les zoos. Surtout en période d'été, ils sont quand même assez friands. Il y a 2-3 étudiants qui ont réussi à décrocher, par exemple, au zoo de Beauval. Ça peut être aussi des animaleries, ça peut être des SPA, ça peut être des refuges. On est vraiment très variés dans le choix sur la deuxième année. Ça peut même être un centre équestre. J'ai des étudiants qui sont passionnés par les chevaux. Ben forcément, ils font une partie de leur stage de deuxième année en centre équestre. Et ça pose aucun problème.
Est-ce qu'il faut un don particulier pour justement s'occuper de ces animaux qui sont souvent en détresse puisqu'ils viennent?
Alors, un don particulier, oui, déjà, effectivement, je suis d'accord avec vous, il faut aimer les animaux. Si on n'aime pas les animaux, c'est un mauvais départ. Et je pense qu'un animal détecte tout de suite à qui il a affaire. Donc, au même titre parfois d'ailleurs que les enfants, je trouve qu'un animal, il sait vers qui il peut aller et vers qui il va avoir une appréhension. Donc en général, ça se passe plutôt bien, mais aimer les animaux, ça reste une base. L'empathie. On en parlait tout à l'heure, l'empathie, c'est très, très important, mais ce n'est pas seulement envers les clients, mais aussi envers l'animal. Et après, je pense qu'un animal, c'est surtout à la confiance. Donc la confiance, ça se gagne, hein, un peu comme avec un être humain. Et du coup, je pense que voilà, au fur et à mesure qu'on a l'habitude d'être avec un animal, ben, il va accorder sa confiance et il va être fidèle. Et d'ailleurs, c'est plus fidèle un animal qu'une personne, parfois. Donc voilà, on peut leur faire confiance par rapport à ça.
Quand on voit sur une porte chien méchant, ça fait peur ou pas? On imagine que des chiens soient plutôt méchants ou plutôt... Il faut savoir les prendre, c'est ça?
Oui, alors on a des chiens dits de catégorie, qui sont des chiens effectivement qui potentiellement pourraient être dangereux. Alors je dis bien potentiellement, parce que c'est pas parce que c'est un chien de catégorie que forcément il est méchant. Mais il y a des chiens qui peuvent avoir des réactions parfois inattendues, surprenantes, on s'attend pas. Et puis d'un seul coup, l'animal va s'énerver et serait en mesure de mordre. Parfois ça peut arriver en clinique, on ait un animal qui arrive et... et qui puissent mordre. Hein. On a des vétos qui se sont déjà fait mordre ou des ASV qui se sont déjà fait mordre, pas forcément parce que l'animal est agressif, mais parce qu'il arrive dans un endroit qu'il connaît, parce que quand on est allé une fois dans une clinique, un animal, il sait très bien pourquoi il y va. Il sait très bien qu'il n'y va pas pour prendre un bain ou pour passer un moment sympa. Donc après, il a cette appréhension parce qu'il va facilement reconnaître les lieux. Et du coup, effectivement, il faut y aller vraiment doucement. Et il faut faire attention aussi par rapport à ça. Il y a des animaux, parfois, on est obligé de leur mettre une muselière pour éviter justement ce genre de risque.
Parfois, on voit des chiens qui ressortent avec des sortes de pavillons autour de la tête.
Des collerettes. Des collerettes, ça, c'est quand ils ont certaines interventions qui nécessitent, par exemple, de ne pas se gratter, mais en tout cas, ils ne doivent pas se lécher ou autre. Et du coup, on leur met des collerettes pour éviter justement qu'ils soient tentés de le faire.
Donc pour les poser, on va dire, ça c'est accessible à vos élèves.
Tout à fait, ça fait partie des techniques dans nos travaux pratiques de laboratoire. On a une collerette et on leur explique effectivement comment mettre une collerette. C'est un exemple de travaux pratiques.